Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Nous allons parler de l'état d'esprit de l'homme québécois dans quelques minutes avec tout un panel d'invités masculins que nous avons choisi pour vous. Je pense qu'il est de bon ton en ce moment de parler de l'homme québécois en crise. Je vais leur demander si effectivement c'est le cas. En deuxième heure d'émission, je vais vous demander si vous aurez encore des dettes à la retraite ou si vous pensez que vous aurez payé et remboursé tous vos emprunts. Nous allons voir ça tout à l'heure. Vous avez vu, bien sûr, c'est en lien avec cette étude qui est sortie hier, comme quoi, ben, finalement, il y a beaucoup de retraités québécois qui vivent au seuil de la pauvreté. On va également recevoir une plongeuse sous-marine qui vient d'ailleurs d'être nommée personnalité de la semaine à la presse, qui se prépare, en fait, ça sera cet automne, à faire une traversée exploratoire du fleuve Saint-Laurent. En fait, elle a l'intention d'aller voir, analyser des échantillons du fleuve pour voir si le fleuve Saint-Laurent est en bonne santé. Fait qu'on va parler de tout ça. Moi, ça me passionne, l'état du fleuve Saint-Laurent. Je ne sais pas si vous le saviez, mais 80 % de l'eau qu'on boit vient du fleuve. Alors, tout à l'heure, en deuxième heure, restez là. Alors, l'homme, puis, j'ai envie de vous dire, puis les gars, comment ça va? Allez-vous bien? Où êtes-vous pris, justement, avec ces maudites féministes fatigantes là, qui veulent
réformer.
Réformer. Oh, voilà, oui, réformer. Jean-François Gay, merci. Le mot n'est pas trop fort. C'est des fatigantes.
Nous sommes la cause de tous les maux des femmes.
Voilà, c'est ça.
Et particulièrement au Québec.
Ah, c'est ce que tu
oui.
penses?
Ah bon, oui, les femmes au Québec.
Tu commences fort. Alors, Jean-François Gay, tu me permettras de te présenter. Auteur, designer, père de famille et habitué de notre émission.
Bonjour.
Stéphane Roy. Je dirais un peu pareil, hein, habitué de notre émission depuis très longtemps. Un bon ami, Stéphane, auteur, comédien, père de famille également. Francis Dupuis-Derry est professeur de sciences politiques à l'UQAM, auteur de ce livre que j'ai bien apprécié, puis qui parle justement de cette crise de la masculinité. Pardon, c'est le titre. La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace. Je commence avec vous, Francis, parce
bonjour.
Que vous dites bonjour. Vous dites c'est un mythe et il est tenace. En ce moment, au Québec, on n'en peut plus, personnellement, je n'en peux plus, de lire toutes sortes de commentaires assez désobligeants envers les femmes de la part de gars qui, visiblement, sont plutôt ce qu'on appelle, est-ce que vous appelez vous-même dans votre livre, des masculinistes. Est-ce que c'est parce qu'en ce moment, il y a une réaction des gars envers le fait qu'on entend beaucoup les féministes s'exprimer? Comment vous voyez les choses? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de la crise de la masculinité?
Bien, parce que moi aussi, ça m'énerve, ce discours-là, qu'on entend depuis vraiment longtemps. J'ai fait le ménage de mon bureau, puis j'ai retrouvé des découpures de presse là, de 91-92 dans Le Devoir, dans la presse, là, où déjà, il y avait des hommes qui disaient que ça allait mal pour les garçons au Québec, dont un dossier spécial de l'actualité en 92 qui s'appelait « Pitié pour les garçons, une génération castrée », puis qui disait en 92, là, c'est il y a 25 ans, qui disait que tout était pour les filles, on demandait aux filles d'aller dans la police, de devenir pilote d'avion, de devenir pompière, puis qu'il n'y avait plus de stimulation pour les garçons. Fait que moi, j'ai regardé les chiffres 25 ans après, donc ça veut dire que les garçons dont on parlait qui étaient castrés en 92, ils sont adultes maintenant, ils ont 35 ans. Mais en fait, c'est vrai que le SPVM est plus féminin que...
Non, mais j'ai une question pour vous. Oui. C'est un mythe, ça. Pour vous,
absolument,
tout ça, c'est
absolument.
Un mythe. Alors, trois fois plus de suicides chez les hommes. Vous expliquez
attendez,
c'est une invention. Les hommes vont bien.
Attendez juste un instant.
Donc là, non, je vais voir... Question. Répondez juste à cette question-là.
J'ai travaillé sur le suicide.
Vous dites qu'il y a un mythe, OK?
Attendez.
Mais vous dites qu'il y a un mythe quand quelqu'un se plaint de quelque chose, quand un groupe social se plaint de quelque chose, les femmes... Moi, je suis un humaniste. Je regroupe les deux clans. Les femmes se plaignent, les enfants se plaignent, je les écoute.
Oui.
Quand les hommes se plaignent, il y a trois fois plus de suicides et vous dites que c'est un mythe.
Non,
moi,
je dis pas que c'est un mythe.
C'est décrit le mythe de la masculinité.
Le mythe de la crise de la masculinité.
Oui, donc vous dites que c'est un mythe.
Je dis qu'il n'y a pas de crise de la masculinité.
Non,
je dis que le suicide, par exemple, c'est lié, entre autres, à la masculinité conventionnelle, qui est un facteur de risque. C'est pas un facteur aidant la masculinité conventionnelle dans les études en psychologie ou en sociologie sur le risque.
La masculinité conventionnelle. Donc, ce que vous dites, c'est que la façon qu'on a été élevé.
Stéphane, on va juste laisser peut-être Francis expliquer.
Non, mais c'est
important. Après, je vais te donner la parole, si tu veux bien. Francis, juste terminer votre...
Non, mais le suicide, c'est très important. Puis après ça, on peut parler du décrochage scolaire. Il y a le même problème par rapport à la masculinité. Mais donc, pour revenir à mes garçons de 80 12,
ouais.
À qui on disait on leur promet plus rien, puis tout est pour les filles au Québec. Ben moi, je suis allé voir 25 ans après, donc quand ils sont rentrés sur le marché du travail. Puis si le SPVM est un peu plus féminin qu'en 92, c'est vrai, il y a un peu plus de femmes, mais c'est 25 % à peu près. Chez les pompiers à Montréal, on est à 1 % de femmes, donc on s'entend que
en
25 ans.
Chez les médecins,
et puis pilote d'avion, c'est 5 %. Donc les trois catégories d'emploi où l'actualité disait en 92, c'est tout pour les filles, mais en fait, il n'y a rien pour les filles.
Ouais. Donc vous dites c'est un... Bon, Stéphane, vas-y.
Moi, je capote. Ça, c'est le genre de discours, là. On coupe au scalpel pour diviser les hommes et les femmes. Et il y a des gens comme ça, les les Warrior Justice, le Justice Warrior, là, qui divise pour vraiment pour diviser, pour se trouver un emploi, pour avoir quelque chose
j'ai
à dire.
Déjà mon emploi,
parce que
j'ai
c'est
déjà
complètement
mon emploi, il est permanent.
Excusez-moi, c'est à mon tour à parler.
Est-ce que l'homme québécois est en crise?
L'homme québécois est en crise parce qu'il n'y aurait pas trois fois plus de suicides. On n'écoute pas les hommes. Moi, j'ai travaillé auprès des associations comme Après Coup. Il n'y avait aucune subvention du gouvernement pour aider des hommes, pour les empêcher d'être violents envers les femmes. En fait, l'idée, c'était de régler le problème à la source des hommes violents. Aucune subvention. Aucune subvention pour les hommes en détresse. Très dur. Et lui, il vient nous dire que c'est un mythe. Ça me fait capoter ce genre de discours-là. Parce que moi, je suis un humaniste. Comprends? Les femmes ont besoin de l'égalité. Et je suis pour ça. Je l'ai fighté toute ma vie.
Et elles ne l'ont toujours pas.
Mais fightons pour ça. Mais ne fightons pas contre les hommes. Là, ce que vous faites, c'est que vous faites une scission entre les hommes et les femmes. Et ça, là, c'est très manichéen. C'est de la manipulation. C'est incroyable.
La société n'est pas égalitaire entre deux catégories. C'est divisé déjà. C'est pas moi qui dis.
Est-ce que je peux donner la parole, si vous permettez?
Attends, mais juste pour finir, il parlait des emplois. Les médecins, il y a combien de femmes médecins? Est-ce qu'il y a plus de femmes? Il y a plus de femmes médecins. Dans l'éducation, il y a plus de femmes. Il y a plus de femmes médecins.
Ça vous intéresse pas, finalement, la question de suicide?
Non, mais vous m'écoutez pas. Il y a plus de femmes médecins. Il y a plus de femmes en éducation. Donc, ça a peut-être rapport au style d'emploi qui c'est.
Donc, le suicide des hommes vous intéresse pas?
Ben oui, il m'intéresse.
Monsieur, je veux juste vous dire une chose. Moi, je peux bien vous laisser vous ostiner comme ça. Puis moi, je trouve ça fait un bon show. Mais les gens vont se plaindre que personne n'est capable
ça
de vous entendre.
Ce genre de
Stéphane, je vous demanderai juste, c'était possible, juste de respecter un peu la parole de l'autre, puis chacun va expliquer. Tu auras du temps de parole, Stéphane, inquiète-toi pas, on en a pour encore 40 minutes à parler de ce sujet-là. Je voudrais donner la parole, si c'est possible, à Jean-François Guay. Est-ce que l'homme québécois est en crise, Jean-François?
Moi, je pense que oui. C'est difficile à l'homme québécois de trouver sa place, comme c'est difficile aussi pour les femmes. Parce que je regarde le discours féministe actuel, il y a beaucoup d'incohérences. Du genre, j'ai le droit de m'habiller sexy, sinon c'est du body shaming. Et dans deux paragraphes plus loin, s'habiller sexy, c'est un dictat du patriarcat. Et tu sais, il y a ce genre de... Je pense que les femmes aussi, dans le discours, sont en train de se placer.
Mais est-ce que tu as l'impression que toutes les femmes
gars,
sont féministes?
Non.
Parce que les féministes que tu décris...
C'est celles qui écrivent dans les journaux. C'est celles qui écrivent dans les magazines. Et je pense que la majorité des femmes, malheureusement, n'ont rien à foutre. Ils s'habillent comme ils veulent, comme ma blonde. Elle aime ça, porter des strings, ça y fait bien. Puis, elle n'a rien à foutre du dictat du patriarcat. Mm-hmm. Et pour ce qui est des hommes québécois, parce que j'ai lu quelques petits extraits, malheureusement, je n'ai pas lu le livre de Francis, qui fait, bon, ça parle beaucoup de politique à l'international, en France et tout, mais pour ce qui est de l'homme québécois, je pense que ça fait 200 ans que l'homme québécois a de la misère à prendre sa place. Mm-hmm. On est un peuple de...
Fait que c'est long sur un pays qui a 400 quelques années, quand
ben,
même.
Ben oui, tu sais, après la conquête anglaise, on ne peut pas dire que l'homme québécois, hormis une certaine élite, et ce n'est pas la majorité, a bénéficié, c'était un privilégié de sa race blanche et tout. On était sous le joug de l'Église et des Anglais.
OK, et, mais là, les femmes...
Et pas les femmes?
Pas des femmes, donc visiblement. J'allais te dire, prends-toi-en aux Anglais, élites, mais pas aux femmes.
Et moi, j'ai été élevé par une mère célibataire, donc par une femme, modèle féminin, mm-hmm. par des professeurs exclusivement féminins. Et donc, ça a été difficile aussi pour moi, tu sais, comme homme, de développer ma masculinité. Quand tu colles-tailles avec des enfants, quand t'es petit garçon à l'école, puis que tu te fais dire tout de suite, t'es violent, arrête ça. Je veux dire, il y a comme... Il y a un besoin fondamental d'être un petit garçon, de bouger, de s'exprimer. Je veux dire, c'est dans mes gènes depuis des milliers d'années. Et là, on est en train, je trouve, de réformer le désir masculin. C'est pas bon, c'est sale. Le mal, c'est mal. C'est espèce de discours.
Où tu prends
bien.
Ça, Jean-François?
Je lis ça tous les jours.
Qui a dit qu'être un mâle, c'était mal ou que c'était sale?
Le discours qu'on entend par rapport au désir masculin de certaines féministes, spécialement les intersectionnelles.
Là, parce que visiblement, a pollué ton environnement, de qui tu parles quand tu dis qu'il y a des femmes qui disent que le désir masculin est mal?
Le féminisme intersectionnel.
C'est
me
quoi,
place
ça?
Moi, qui me place
mais
moi
c'est
comme
quoi,
étant
le
un privilégié. Mais c'est même dans l'âge, c'est même dans le livre de Francis que le mâle blanc est un privilégié. Donc,
sûr.
Moi, je ne sais pas où sont mes privilèges parce que. Ça m'a coûté 200 000 piastres me divorcer. J'ai sept juges, je ne sais pas combien d'années de bataille. Puis mon triplex que j'ai acheté moi-même avec mon argent à travailler 100 heures par semaine, ce n'est pas une femme ni le gouvernement qui l'a payé, c'est moi tout seul. Fait que je sais pas là mais où à ce on en vient avec okay. mon privilège.
Mais il y a beaucoup d'hommes qui te rejoignent dans ce que tu viens de dire, sans doute, parce qu'il y a beaucoup de gars qui ont dû donner la moitié, selon les règles de justice,
mais j'étais totalement correct.
À la conjointe avec qui ils ont vécu pendant un certain nombre d'années.
Pas le 70 000 piastres d'avocat, par contre. Pour rien.
Ça, c'est autre chose.
Pour rien.
Ça, c'est autre chose. Mais que tu dis, j'ai dû y donner la moitié de mon
triplex. Ah non, non, ça, j'ai pas dit ça. Ça, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que ça m'a coûté.
C'est moi qui l'ai payé.
Ben, c'est moi qui l'ai payé.
Peut-être, mais t'étais seule. Il y avait pas une conjointe à ce moment-là qui élevait tes enfants. Voyez-vous, c'est ça, là, l'affaire.
Ben, j'en ai donné ouais. aussi, puis c'était correct, puis j'étais content. Puis, tu sais, une pension alimentaire, il y a la pension alimentaire aux enfants, puis il y a ouais. la pension entre conjoints. Moi, ça, j'étais content d'y donner ça pour qu'elle puisse...
Mais là, t'es plus content, là.
Ben, ça a été fini ouais. après un moment donné, là. Non, mais attends, ouais. C'était correct. Je pense qu'on mélange les affaires. Là.
J'aimerais entendre Francis Dupuy-Déry. Donc, dans votre livre, La crise de la masculinité, vous dites, effectivement, vous faites tout un survol de ce qui se passe un peu sur la planète. Vous dites que ça fait très longtemps,
oui,
même à l'Antiquité.
Voilà. Exactement, oui.
Qu'est-ce que vous dites de l'homme québécois, de toutes vos analyses, Francis? Qu'est-ce que vous avez pu voir sur l'homme québécois en ce moment? Il y a la colère de Stéphane, par exemple. Oui. Il y a celle aussi de Jean-François. C'est des colères réelles, c'est des frustrations réelles. Moi, j'ai eu, j'allais dire, une pelletée de commentaires désobligeants lundi à la suite d'un de mes articles dans le Journal de Montréal où je faisais référence, entre autres, à la violence, certaines violences d'un certain type d'homme, justement.
Oui.
Et à chaque fois, ça, c'est une déferlante d'insultes. Il y a quelque chose, en ce moment, il y a des frustrations chez les hommes au Québec, là.
Oui, ben, juste parce que ça a été évoqué, la question du matriarcat québécois qui daterait de la conquête mm-hmm. anglaise. Donc, ce qu'on comprend, c'est que quand c'était les colons de Nouvelle-France qui colonisaient le territoire, là, c'était bon pour la virilité, mais à partir du moment où les Anglais prennent le contrôle, c'est pas bon. Puis effectivement, là, on évacue les femmes et on évacue surtout le fait que le Québec était contrôlé, en fait, par des hommes, même à la campagne, la caisse populaire, le notaire, le curé, le conseil municipal, le chef de police, il y avait de la police, le député, c'était tous des hommes, ceux qui avaient les comptes de banque, c'était des hommes, ceux qui étaient propriétaires des terres, pour les gens qui viennent d'une famille d'agriculteurs. Moi, ma mère est née sur une ferme près de Joliette. L'héritage, la terre, c'était toujours à des hommes. Puis après ça, on dit...
Même la Bolduc n'avait pas pu avoir son compte en banque, ça a tout prix.
C'est incroyable. Et on dit c'est un matriarcat québécois parce que la mère, dans la cuisine, dominait la famille. Ben là, c'est pas sérieux, là. C'est pas ça un matriarcat.
C'est pas ça
un matriarcat.
C'est un matriarcat social. Donc, c'est un matriarcat. Donc, si toi, les femmes avaient un pouvoir réel.
Donc, si toi, t'étais dans la cuisine, tu possédais pas la terre. T'allais pas hériter de la terre. T'allais pas garder ton nom.
Les femmes étaient plus éduquées que les hommes. Les femmes étaient plus éduquées que les hommes.
Oui, mais elles étaient dans la cuisine.
Et
elles avaient pas de pouvoir.
OK, ma grand-mère a quitté cette fameuse campagne-là à l'âge de 18 ans avec 2 $.
Ma mère a quitté la campagne.
Parce qu'elle était la deuxième de 19 enfants. Elle voulait pas être la mère de ses frères et sœurs.
Et elle aurait jamais hérité de la terre parce que c'était une femme.
Elle est arrivée ici et elle a marié un postier qui avait une bonne situation, puis c'est elle qui a tout géré, de A à Z.
Mais,
et ma grand-mère, qui est morte 30 ans après...
A-t-elle possédé la terre?
Il possédait rien,
pas,
ces femmes-là
elle
possédaient
voulait
rien.
Pas, ben elle a possédé deux duplex, puis elle est morte avec un demi-million dans ses poches, et c'est elle qui avait les culottes, et je pense qu'au Québec... Non. Il y en avait beaucoup de ces femmes-là. Et c'est un manque de reconnaissance. Et ma grand-mère, elle est morte très heureuse. Même si elle n'a pas eu de carrière comme avocate, elle est morte très heureuse.
Entre avoir les culottes puis posséder la terre, je pense que c'est plus important de posséder la terre. Pour une famille, pour une société d'agriculteurs.
Ben, ça, c'est on va aller à la pause.
Pour
si
un
vous
discours
permettez.
Universitaire peut-être, mais au day-to-day dans un couple, pour un couple, moi je vous dis non.
Pour vivre sur une terre.
Non, mais attends, là on parle de maintenant.
Si vous me permettez, nous allons voir avec nos auditeurs si l'homme québécois est en crise. Alors, vous nous appelez au 514-790-9850 et sans frais, vous faites, pour nous joindre un peu partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Alors, on se demande si l'homme québécois est en crise en ce moment. Je pense que la question est intéressante et importante. C'est un enjeu de société. On entend beaucoup de discours. Un discours, justement, où on dit les femmes se plaignent. En même temps, c'est plus possible de les toucher parce qu'on va avoir un MeToo sur le dos, une plainte officielle. Donc, il est plus possible maintenant de crouser, de faire valoir notre désir. Comment se retrouver là-dedans? En même temps, notre violence, comme homme, où est-ce qu'on la passe? Je vais vous donner la parole, messieurs. Nos invités sont là également. Francis Dupuy-Déry, qui vient d'écrire un ouvrage intéressant, La crise de la masculinité, un mythe tenace. Jean-François Guay et Stéphane Roy qui viennent expliquer ce qu'ils en pensent de cette crise et eux sont convaincus qu'il y en a une bel et bien. Avec nous, l'auditeur Sébastien, c'est bien ça. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour à tous.
Est-ce que, d'après vous, l'homme québécois est en crise? Vous, là, comment ça va?
Ben, moi, ça va bien.
Bon, déjà, c'est
bonne nouvelle.
Ça. Est-ce que vous pensez que les gars au Québec, il y a effectivement un petit problème de crise, d'identité, de... Comment vous voyez ça, vous?
Crise, je trouve que le mot est fort un peu. Okay. Je pense qu'on soit nécessairement en crise, mais oui, en quelque part, on se cherche un peu les hommes. Je dirais que la crise est au niveau de l'opposition entre les hommes et les femmes. Mm-hmm. C'est l'espèce de discours d'un côté et de l'autre. Là. Tu sais, les masculinistes et les féministes, là, ils peuvent bien se parler entre eux autres. Il y a du monde entre les deux qui sont, à mon avis, moi, je suis comme Stéphane, je suis un humaniste. Et je pense que les humains, tu sais, à travers les humains, il y a différents types d'humains, dont les hommes et les femmes, qui ont des différences, qui ont des forces, qui ont des faiblesses et qui se complètent. Et c'est de reconnaître ces forces et ces faiblesses-là, d'être en mesure aussi de faire un minimum d'introspection, parce qu'à pointer les autres du doigt, c'est l'autre sexe, c'est de la faute de l'autre, puis ben pendant ce temps-là, on se regarde pas, nous, comme individus, comme être humain, dans ce qu'on peut dire ou faire là, qui peut.
T'as totalement raison.
Moi, je suis d'accord avec lui complètement.
Stéphane,
alors, c'est ce que je disais tantôt, là, c'est qu'il y a un mouvement qui fait la scission entre les hommes et les femmes, qui sépare les hommes et les femmes tout le temps, au lieu de les traiter ensemble, en tant qu'humanistes, puis essayer d'améliorer le sort des femmes pour qu'il devienne égal au sort des hommes, sans pointer du doigt les hommes. Et on fait la même chose au niveau du racisme. C'est-à-dire qu'il faut combattre les institutions, mais on dit les Québécois sont racistes. On pointe tout le temps les gens. Et ça, là, c'est une façon, là, très minable de traiter des gros problèmes. Parce que ces gros problèmes-là doivent être combattus avec les institutions, contre les institutions. Et ce combat-là se fait plus. Les Justice Warriors, maintenant, ils font contre l'individu. Comme ils font, là, dans Schlaga, tu sais, pour combattre la pauvreté, ils vont saccager des petits commerces, tu sais. C'est toute cette ambiance-là qui de guerre entre les individus qui m'énerve. Moi, je suis un humaniste. Et j'aimerais ça qu'on mette les pieds sur terre et qu'on arrête de dire, j'ai lu dans son extrait de livre, là, à un moment donné, que tout le masculinisme amenait de la violence faite aux femmes. J'ai lu ça, là, je peux voir l'extrait. Là. C'est incroyable de dire ça. C'est
Francis
incroyable.
Francis Dupuy-Déry, justement.
Ben l'exemple qu'on peut donner c'est ce qui est arrivé à Toronto. C'est des gars qui disent nous on souffre en tant qu'hommes parce que les filles s'intéressent plus à nous. Mmh. On est des célibataires, on n'a jamais eu de relation sexuelle. Puis là ils tuent des femmes. Puis là bon eux vous allez me dire ouais mais ça c'est comme un crackpot qui est comme un cas complètement exceptionnel. Ouais mais il y a des milliers de followers qui disent c'est un héros et un martyr.
Je pose une question donc tu ferais le même amalgame avec les musulmans. Tu dirais, donc il y a des milliers de musulmans, donc le problème, c'est les musulmans. C'est ça que tu fais un amalgame, là, en ce moment, avec un individu qui est fou, puis qui est dans un groupement de fous, avec toutes les hommes.
Stéphane, qui est quand même suivi par toutes sortes de groupes sur Internet, c'est beaucoup sur Internet, d'ailleurs, vous
c'est
le dites.
C'est l'inverse, hein? ce que je dis sur les attaques armées des musulmans, ou les attaques armées de milices armées ou de groupes armés, ben moi, je considère que c'est pas des fous, ils ont des objectifs politiques, on peut être en accord ou en désaccord. Je suis en désaccord avec le gars de Toronto, je suis plutôt en désaccord avec le monde qui arrive sur un café à Paris puis qui tire des mitraillettes, mais à la mitraillette, mais c'est des actions politiques, puis ils ont des gens qui disent, c'est une bonne affaire.
Cet amalgame-là, les hommes et cet homme-là, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas pour les femmes et non plus pour les musulmans.
Non, mais ça a été fait pour Montréal, Marc Lépine. Pourquoi on ne dirait pas que c'est un acte terroriste? Cette analyse-là a été faite. L'analyse a été faite à Toronto. Puis à Toronto, il prend pour héros Elliot Rodger, qui est un autre gars qui, en Californie, avait fait la même affaire, après qu'un autre gars aux États-Unis avait fait la même affaire.
Et ce mouvement-là est sûrement nourri par les Justice Warriors.
On va mettre les tueurs de masse de côté. On va revenir à nos auditeurs.
Ben, oui.
Marie, bonjour. Comment vous voyez l'homme québécois? Est-ce que, d'après vous, il y a une crise au sein des gars au Québec?
Ben, moi, je pense qu'il y a un changement de culture, visiblement. Et je pense que chez certains individus, ça amène une situation de crise parce que c'est sûr que on regarde un peu partout, c'est les hommes qui demeurent au pouvoir, c'est les hommes qui demeurent dans les postes stratégiques dans la société de façon majoritaire. Il y a des femmes de plus en plus, mais de façon majoritaire, ce sont les hommes. Alors, c'est sûr qu'une femme qui arrive au pouvoir ou qui prend plus de place, je pense que c'est là où ça vient bouleverser certains hommes et que ça amène des frustrations. Puis votre invité, un de vos invités qui, je pense que ça se prénomme Stéphane, il me semble un peu dans cette catégorie-là, en fait, avec ce que j'entends de lui. Il semble un peu frustré de voir ces changements-là.
Non,
puis
pas
que
du
ça
tout.
Amène...
Pas du tout, vous avez bien compris.
Laisse finir Marie, s'il te plaît.
Je suis d'accord avec ça.
Marie, vas-y, allez-y.
Ben c'est ça, c'est que je vois qu'il veut interrompre tout le temps puis toujours intervenir pour se justifier. Puis, mais dans les faits, oui, les femmes prennent leur place. Oui, elles ont des choses à dire. Puis c'est sûr que ça peut venir, comme je vous disais, ça peut venir bouleverser culturellement certains hommes parce que c'est un changement de pouvoir ou c'est un il y a peut-être une égalité là à rétablir. Mm-hmm. Puis ça vient, mais c'est sûr que de faire des généralités, de parler de tous les hommes, toutes les femmes, ben c'est sûr que
Là-dessus tout à fait. Marie, merci beaucoup. Ça me donne envie d'ailleurs de lire un extrait du livre de mon invité Francis Dupuy-Déry, où justement vous citez Anthony McCannon, qui est un Australien qui fait des recherches aussi sur le féminisme et le masculinisme, puis qui dit le féminisme pose aux hommes une question non pas psychologique mais politique. Alors il dit, est-ce qu'on est prêt à abandonner notre pouvoir masculin, nos privilèges et notre capacité de nous approprier des femmes et leur force de travail émotionnelle et physique? Bref, sommes-nous, il parle aux hommes, sommes-nous prêts à ce qu'il n'y ait plus de différence entre les sexes en termes de pouvoir, de recherche, ressources, travail? Sommes-nous prêts à ne plus être des hommes, mais seulement des êtres humains? Humanisme, Stéphane, comme les autres, qui ne seraient pas supérieurs en raison de leur sexe. Sommes-nous prêts à considérer la combativité, l'autonomie, la solidarité, l'entraide comme des valeurs ou des attitudes humaines et non pas masculines ou féminines? Sommes-nous prêts à considérer que les tâches de travail ne sont pas assignées à des sexes, mais à des capacités humaines que les hommes comme les femmes peuvent avoir ou pas?
Moi, j'embarque l'émission.
Tout à fait, mais là on parle de mettre tous les êtres humains à pied d'égalité. Ça, je suis d'accord. Moi, c'est quand on pointe le passé, l'homme blanc, tu sais, l'homme blanc dominant, tu le quittes. Les avancées de notre société, c'est un long historique. Tu sais, on pourrait pas faire toute l'histoire, mais les combats, les guerres.
J'aimerais ramener quelque chose au couple puis à la société en même temps. Pour qu'une relation de couple fonctionne, c'est important de reconnaître l'autre, de reconnaître quand il se sent pas bien, de reconnaître ses frustrations, ses injustices, de l'entendre, dire « OK, oui, je t'entends là-dedans », puis tout ça. Fait que j'ai l'impression que depuis un grand bout de temps, depuis plusieurs dizaines d'années, depuis que le féminisme s'émancipe, tout ça, on entend les femmes, leurs frustrations, leurs injustices. On les écoute, il y a le discours qui veut nous réformer, nos privilèges, ça. Et quand certains hommes, et c'est là que la violence des hommes, je trouve, est exacerbée, c'est quand les hommes se plaignent que nous aussi, on a des problèmes, nous aussi, on vit des injustices, nous aussi, on souffre. Et là, il y a, bon, que dont l'autre, la petite chose qui se plaint, le petit...
Il y a trois fois plus de suicides, quand même, chez les hommes.
Puis mon point, le rapport Rondeau sur la santé mentale des hommes, sur la santé en général des hommes, en 2005, sort en 2005, mm-hmm. Barrette a débloqué 30 millions 12 ans plus tard pour aider la santé des hommes. Lorsque ce rapport-là est sorti, il y a un collectif féministe de 15 organismes féministes qui a décrié pour dire que comment fabriquer un faux problème. Mais c'est parce que si les femmes n'écoutent pas les hommes...
Non, mais là, tu viens... Regarde l'amalgame. Là, tu viens de faire un amalgame, Jean-François. Tu as dit les féministes, je ne sais pas lesquels.
La FFQ.
Arrêtez de parler de la taxe qui finance
ces organismes-là.
Arrêtez de parler de la Fédération des femmes du Québec.
Plein d'autres. Les maisons d'hébergement, les cités, tu sais, tout ça. Il y en a 15
comme ça. C'est un lobby.
Je sais que c'est un lobby.
Arrête de faire des cauchemars avec la Fédération des femmes du Québec.
Elles ne veulent pas perdre leur pointe de tarte. Mais ce que je comprends d'entendre...
C'est pas la Québécoise. Moi, je pense que je ressemble pas mal à la Québécoise ordinaire. T'sais, madame tout le monde, là, les filles, on travaille, on a des enfants, on aime nos chums.
C'est ça.
On
veut qu'ils soient bien dans leur salle. Mais j'aimerais ça les entendre, celles-là.
J'essaye de faire entendre ces femmes-là. Je pense que Marie, qui est une jeune femme, était représentative aussi de ça. Mais est-ce que ça veut dire s'effacer devant le gars? Non.
Ça veut dire,
il y a des pays, la femme, elle marche encore dans l'ombre de son mari.
Ben oui, mais pour Québec.
Ici, c'est plus de même, les gars.
Ça serait le fun de pas y revenir.
Je le vois, moi.
Je me promène sur la rue, je le vois.
Mais quand, tu sais, il y a encore beaucoup de gars qui sont quand même qui véhiculent. Je disais, pourquoi j'ai des insultes dès que j'exprime une opinion?
Isabelle, moi, je suis capable de dire que ces gars-là, c'est des crises de cave.
C'est des caves.
Par contre, s'il y a des femmes qui exagèrent de leur côté, on ne peut pas dire que c'est des hosties.
Mais tu peux.
Isabelle.
Je le dis aussi.
La Fédération des femmes du Québec. J'ai une question.
Arrêtez.
Je te pose une question, tu ne t'identifies pas à eux autres.
Pas en tout. Tu le sais, en plus, Stéphane.
c'est le problème. C'est que ces organismes-là, ils créent la division, ils créent le conflit. C'est vraiment, ils disent qu'ils parlent au nom des femmes.
Moi, est-ce que tu vois une femme de la Fédération des femmes du Québec à mon émission?
Francis, non, voudrait parler.
Parce que je leur donne pas la parole.
Hey, c'est son
alors,
livre,
faut arrêter de donner la parole à des groupes qui sont 3 ou 4, tu comprends, puis qui foutent le bordel. Francis, avant la pause.
Ben moi, je peux pas accepter la théorie que les féministes créent la division. Il y a des inégalités qui restent encore au Québec, même si on est une société très avancée par rapport à l'égalité entre les sexes. Puis les femmes ont fait beaucoup d'avancées depuis, et j'en suis super content. Ma mère est contente, ma soeur est contente, tout le monde est content. Mais c'est pas égal encore. C'est pas égal au sommet, dans les institutions au sommet. Mais évidemment, tous les hommes sont pas au sommet. Puis c'est pas égal non plus, en général, dans les relations interpersonnelles, clairement, au niveau du salaire, au niveau de qui a peur de marcher dans la rue parce qu'on a peur d'être attaqué par l'autre sexe. Les gars peuvent être attaqués dans la rue. Je peux me faire attaquer dans la rue par des femmes. Il y a très peu de chances. Fait que je vois pas comme... Bref, il y a plein de...
Là, vous allez vous faire garrocher des roches, Francis, si vous dites ça. Moi, je l'ai écrit
lundi.
Par des hommes. Parce que chaque fois qu'on parle de la violence des hommes, c'est comme si on ne pouvait pas. Et tout de suite, on oppose la violence de certaines femmes. C'est sûr qu'il y a des femmes violentes.
Ah oui, c'est
sûr qu'il y a des femmes qui tuent leur enfant. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est épouvantable sur un enfant.
Mais voyez-vous,
c'est ça le problème.
Oui. Mais ce que je veux dire par rapport aux féministes, on peut pas accuser les féministes de diviser la société. La société est déjà inégalitaire. Et en fait, moi, je dis toujours, si on veut plus qu'il y ait de féministes, ben, il faut qu'on ait une société égalitaire.
Il y a plusieurs formes de féminisme. Et okay. Effectivement, il y a un féministe qui est plus rassembleur.
OK, mais je veux qu'on parle de féministe finalement. Je veux qu'on parle de vous, les gars. Puis je veux entendre des hommes. Est-ce que vous vous sentez en crise existentielle en ce moment, messieurs? Est-ce que vous estimez qu'effectivement, on devrait prendre plus soin de l'état d'esprit des hommes? Il y a quand même une certaine rage dans le cœur de certains hommes au Québec. Il y a beaucoup de frustration. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a de la violence. Puis ça se peut que ça soit des attributs masculins. Moi, je pense que non. Je pense que...
C'est humain.
C'est humain, mais s'il y en a plus chez les hommes, est-ce que c'est à cause de certaines frustrations? Est-ce qu'on vous écoute pas effectivement? C'est un peu tout ça. 514-790-9850 et sans frais, le 1-866-790-9850. Alors, on a Alex avec nous. Bonjour, Alex.
Bonjour, Isabelle. Ça va bien?
Ça va très bien. D'après vous, est-ce que l'homme québécois est en crise identitaire existentielle? Est-ce qu'il vit des frustrations qu'on devrait plus écouter? Comment vous vous sentez, vous, Alex?
En fait, je pense pas que le besoin soit de plus l'écouter. Je pense que ça dépend plus que l'homme se doit de s'assumer lui-même. La problématique qu'il y a de s'assumer lui-même. Moi, ma mère m'a élevé, elle était monoparentale, j'ai été abandonné, là, j'ai bientôt 30 ans. Ma mère était secrétaire de direction dans de grandes compagnies dans la région de Montréal. Elle s'est toujours débrouillée toute seule, ça s'est toujours bien passé, ça n'a pas toujours été facile par contre. Elle m'a élevé en faisant les tâches ménagères puis en l'aidant à la maison. J'ai aujourd'hui une conjointe qui a mon âge, qui gagne un meilleur salaire que moi. Pourtant, je vais quand même jouer au hockey tous les soirs, ben pas tous les soirs de la semaine, mais 2 fois par semaine. J'ai des amis, je m'assume dans ma masculinité à tous les jours. Pourtant, j'ai pas connu Tinder. Je suis dans le début de l'avènement d'Internet, là, début des années 90. Donc, j'ai comme fortement l'impression que les adultes, les hommes adultes qui sont en manque d'écoute n'expriment pas leurs sentiments, mais qu'à l'inverse non plus, ils en discutent pas. C'est moi, ma conjointe, là, je l'ai séduite dans un bar. Je l'ai pas tenderisé par Internet. J'ai pris mes gosses, puis j'ai été la voir, j'ai offert un verre, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a un moment donné où il faut s'assumer en tant qu'homme et faut le faire. Puis, ça m'empêche pas de laver le linge à la maison puis de faire la vaisselle le soir pour autant.
Merci beaucoup de votre témoignage, Alex. Samuel, bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, ça va très bien. Est-ce que, d'après vous, l'homme québécois est en crise?
Le mot crise est un peu fort, mais moi, qu'est-ce que je voudrais dire à ce sujet-là? C'est que moi, j'ai 30 ans, j'ai 2 enfants, ça fait 14 ans que j'étais avec ma femme.
Mm-hmm. Wow.
Puis, j'ai beaucoup merci. J'ai beaucoup de couples d'amis, justement, on en parle des fois entre gars. C'est de pousser égal. On aime ça, on est gentlemen. On est rendu qu'on fait le ménage, on couche les enfants, on joue avec eux, on fait la nourriture. C'est toutes des choses que mon père faisait parce que j'ai eu un bon père, mais que c'est pas le standard de l'homme. Puis là, une manière, on est comme rendu, les femmes, ils veulent aller jusqu'où? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Comment vous voulez qu'on vous aide? Mais une manière, un homme est une femme, puis une femme est une femme, puis un homme est un homme. c'est de trouver le juste milieu. Puis là, je pense que l'homme, on sait plus c'est quoi la prochaine étape. Puis je pense que même les femmes le savent pas.
C'est vrai, ça.
Mm-hmm. C'est intéressant, c'est bon ça, point, fait, ouais. Ça fait réagir beaucoup de gens. Merci Samuel, merci bien. René, bonjour René.
Bonjour Isabelle, moi je suis d'accord avec le monsieur qui dit que sa mère a tout élevé la famille puis qu'elle n'avait rien. Parce que dans le fond, de l'autre côté aujourd'hui, là, la plupart des enfants sont tous élevés par leur mère, tout seul. Mm-hmm. Fait que c'est quasiment la preuve que le gars il a plus sa place. Autrement dit, là, faut qu'il refasse son chemin. Je connais plus de monde qui sont élevés par leur père. C'est toute leur mère, leur grand-mère. En tout cas, Noé, c'est pas leur père.
Ouais. Comprenez? Est-ce que l'homme a pu sa place ou il a pas pris sa place? Comment vous voyez ça?
Ben, selon moi, il peut pas l'apprendre pour les raisons que le monsieur qui dit que sa mère a élevé toute sa famille puis elle a eu tout le kit. Ça me fait penser comme la PEG qui s'occupe de tout. On n'entend pas parler d'eux autres, mais c'est eux autres qui gèrent tout. Fait que là, le gars, il paye sa pension, il paye la moitié de sa maison. Mais on n'entend pas parler. Mm-hmm. En gros, là, je trouve que c'est ça. Ça l'aide pas. Vous dites qu'il veut prendre sa place, je comprends qu'il veut la prendre. Moi, ça me fâche plus que d'autres choses, mais je vois bien qu'il n'y a rien à faire.
Et c'est vrai qu'au niveau parental, les femmes, le féminisme a demandé aux hommes, puis moi, j'ai été élevé là-dedans, le féministe de Lise Payette, là, impliquez-vous. Et je l'ai fait, mais on ne lui fait pas beaucoup de place. C'est, tu le fais pas comme il faut. Tant qu'à le faire, fallait pas. Tant qu'à le faire mal, fallait non pas. Puis, tu sais, t'as un peu... je lisais un truc où je pense à une intervenante à la radio à un moment donné. Tu dis, oui, mais c'est aux hommes, même si on les laisse pas faire puis on les rejette, ben qu'ils prennent leur place pareil. Mais non, ma grande, faut que tu nous fasses la place, tu sais, pour qu'on puisse, comme père, s'émanciper. Puis moi, j'ai existé comme père après ma séparation. Ça a été comme ça. Parce que, mais je blâme pas mon ex, il y a moi, j'ai pas eu de père, j'ai pas eu de modèle. Donc, c'était plus difficile pour moi de prendre ma place et j'étais avec quelqu'un qui m'en donnait pas. Mm-hmm. Donc, je la blâme pas, c'est 50-50. Sauf que c'est ça aussi.
Francis.
De...
Mm-hmm. Francis, là-dessus?
Ben moi, j'entends aussi l'inverse. C'est les gars qu'on fait des tâches, mais on les fait mal parce qu'on sait qu'on ne nous demandera plus de les faire après. Donc, ça, c'est un jeu qui joue
c'est
à
un
deux.
Truc.
J'en connais pas beaucoup de gars qui font
non.
ça.
Je peux t'en présenter.
Les enfants font ça, là.
T'en présenter. Mais sur les divorces, si je peux dire quelques mots sur les divorces, moi, j'ai des amis qui ont eu des divorces catastrophiques, extrêmement douloureux.
On en connaît tous,
qui ont coûté des dizaines de milliers de dollars. C'était complètement ridicule, là. Mais moi, pour moi, ça n'a pas rapport avec le féminisme. C'est-à-dire, oui, les femmes ont gagné le droit de divorcer, heureusement, là. Mais en fait, quand on arrive là, moi, je pense pas que les femmes ou que les féministes avaient comme projet d'idéal pour les femmes la mère monoparentale qui élève seul ses enfants puis qui met le père dehors. Ça se trouve pas comme théorie. Puis quand il y a des couples qui vont tellement mal dans leur communication, que ce soit la faute de l'un, de l'autre ou des deux, ben oui, ça se retrouve devant des juges. Puis ce qu'on appelle un palais de justice, c'est vraiment pas un lieu très accueillant et très émancipateur pour personne.
Ben,
puis il y a des
ça,
gens qui font de l'argent là-dedans.
C'est peut-être ça la réaction des hommes. C'est plus par rapport à ça, par rapport à le manque d'écoute de leurs problèmes à eux, parce qu'ils en ont quand même. Puis il faut pas arrêter de les écouter. C'est la troisième fois, je reviens sur 3 fois plus de suicides. Ce n'est pas rien, tu sais. Si les femmes avaient 3 fois plus de suicides que les hommes, j'espère qu'on s'en occuperait, tu sais. Il faut s'en occuper.
Ça, bien
parler
de ça.
Ouais. Ben oui, parlons-en. Non,
mais
le suicide des hommes.
Mais après ça,
Donc, pour moi, il y a une réelle problématique là. Et moi, j'ai été porte-parole au sein d'organismes qui aidaient les hommes. Et on n'avait aucune subvention, rien pour les aider. Finalement, ces organismes-là fermaient porte. Moi, je trouve pas que ces organismes-là sont mieux que les organismes pour les femmes. Je trouve qu'il doit y en avoir pour tout le monde, tu sais. Et beaucoup pour les femmes pour rattraper leur retard.
En 2009, 11 dans les groupes communautaires, je pense que c'est un budget de plusieurs, ça dépasse le milliard de dollars au Québec, 11 $ dépensés pour les organismes d'aide aux femmes, 1 $ pour les hommes. Mm-hmm. Si on parle de vouloir aider, on s'entend que les femmes ont beaucoup de besoins, mais si on n'écoute pas les besoins ou si on prend pas soin des besoins des hommes, on crée un déséquilibre, on crée de la frustration et on crée des propos dégueulasses comme les hommes, des propos violents à condamner. Si on les écoute plus...
On revient après la pause. On a Simon avec nous. Bonjour Simon. Est-ce que vous estimez que l'homme québécois a besoin de se faire entendre plus que les frustrations sont à ce point là qu'il y a tellement un discours féminisme fort que vous vous sentez un peu découragé, castré pour reprendre le mot de certains?
Ben en fait non, je vous dirais j'écoute votre émission là, depuis tantôt puis je me reconnais pas dans ce discours d'homme écrasé qui a de la misère à prendre sa place. Moi j'ai 40 ans, 2 enfants, une conjointe, je prends soin des enfants, je vais porter à la garderie, j'ai bord, bon, espèce de papa moderne, si on veut. Puis Puis je prends plaisir là-dedans beaucoup. Puis par rapport, je trouve même que c'est une belle période pour être un homme, être un papa. Quand je compare, mettons, à l'époque où l'homme il travaillait tellement qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de ses enfants, pas le temps de voir ses enfants beaucoup. Puis en contrepartie, je trouve aussi que si j'ai besoin de parler, j'ai ma gang de chums, tu sais, oui, on va jouer au hockey, on fait des trucs de boys, pas de problème. Mais si j'ai besoin de parler, on dirait qu'il y a moins de tabou. Je peux parler, mettons, de mes tristesses, de mes angoisses, sans me sentir jugé par mes amis gars. Fait que je trouve que par rapport à ça, il y a un bon balancement. Puis le discours féminisme, masculinisme et tout ça, en tout cas, moi, de mon côté, dans ma vie de tous les jours, puis avec mes amis, puis ce que je vois, puis tantôt, je vais finir avec ça, il y a un auditeur qui disait qu'aujourd'hui, les enfants sont tous élevés par les mères. En tout cas, moi, c'est pas ce que je vois, parce qu'autour de moi, tous les papas sont beaucoup plus impliqués. Le nombre de papas qui jouent avec leurs enfants, qui prennent soin de leurs enfants, je trouve qu'on est une belle génération de papas. Puis une belle génération, en fait, c'est ce que je dis, dans le fond, pour moi, je trouve que c'est une belle période pour être un homme.
Quel âge avez-vous?
J'ai 40 ans.
40 ans, c'est ça.
J'ai été élevé par une mère monoparentale. Je voyais mon père une fois par deux semaines, là, mais tu sais, j'ai pas senti que que j'étais castré, puis tout ça.
Parce que en écoutant mes invités, puis les gars qui appellent, selon qu'ils sont plus jeunes ou un peu plus vieux, je me dis, puis ça, c'est une hypothèse, c'est même pas une hypothèse, c'est une question. Est-ce que c'est peut-être pas des frustrations de gars, peut-être de gars X, fin quarantaine, début cinquantaine, je sais pas, Jean-François?
Non, ça se pourrait. Ben, moi, je me suis jamais senti castré. J'ai vécu ce que ce beau papa-là vient, tu sais. Moi, je l'ai eu, ma paternité. Je les ai élevés à temps plein, mes enfants, puis c'est moi qui les bordais, puis qui leur racontais Et j'en veux pas du tout. Je me suis jamais senti castré par les femmes. Ce qui me gosse, c'est quand on me dit que je suis un privilégié. Non, ça, j'embarque plus.
Francis Dupuis-Derry, vous avez écrit justement « La crise de la masculinité, histoire d'un mythe tenace, autopsie d'un mythe tenace ». Est-ce que c'est une question de génération, d'après vous, un certain discours?
Ben, en fait, ce que je montre dans le livre, entre autres, c'est que c'est quelque chose qu'on entend depuis 500 ans dans à peu près tous les pays en Occident. C'est ça que j'ai fait comme recherche. Puis qu'on entend aujourd'hui partout, en fait, presque partout, même l'Église catholique, il y a des cardinaux et des évêques qui disent que l'homme est efféminé à cause des féministes. En Russie, au Mexique, dans des pays où on dirait quand même...
C'est pas plus fort au Québec? Parce que les gens disent au Québec, le féminisme...
Au Québec, c'est fort, mais on l'entend aux États-Unis, on l'entend en France, on l'entend... On l'entend en Espagne, en Italie. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui revient de façon vraiment récurrente depuis 500 ans, puis qu'on entend toujours, et qui est une façon, en fait, pour des hommes d'attirer l'attention sur nos problèmes, puis de donner l'impression, en fait, qu'on rééquilibre un peu avec les discours féministes. Mais pour moi, il n'y a pas d'équivalence. C'est pas les mêmes.
Mais il y a beaucoup de Québécois, d'hommes Québécois, et même certaines femmes québécoises qui disent qu'on y vit dans un matriarcat, puis qu'au Québec, je cite tantôt Denise Bombardier-Lactu, qui écrivait cette semaine, la mère au Québec est tour à tour castratrice et complaisante. Êtes-vous d'accord avec ça?
Oui, on a entendu ça. On entend ça depuis longtemps. En 89, il y avait Guy Corneau aussi qui avait écrit Fils manqué,
qui était très, très bon.
Qui était aussi sur cette idée de la mère dominatrice et castratrice. C'est un peu pas gentil pour toutes les mères qui ont mis tellement d'efforts, qui ont tellement travaillé pour élever les enfants, des fois seules, des fois pas seules, mais même quand, dans les années 80, quand le mari était là, c'est comme de dire que la mère est castratrice alors que c'est elle qui fait tout le travail, c'est un peu réducteur. Je pense qu'on devrait les remercier, puis on devrait vraiment les féliciter, les mères, d'avoir fait tout ce travail.
Amen.
J'étais un papa très, très impliqué, mais mon expérience personnelle, je m'en fous un peu à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est le combat des hommes qui ont de la misère qui va me rejoindre autant que ceux des femmes qui ont de la misère, tu sais. Mm-hmm. Pour moi, c'est autant important. Pour le côté castrateur, je trouve que même des femmes me disent souvent que les hommes sont un petit peu castrés, ouais. Puis quand ils vont en Europe, ils les trouvent tellement charmants, puis tellement, tu sais, un peu, ils embarquent dans le jeu de la séduction, ils vont plus loin, tout ça. Puis moi, je trouve que oui, on est un petit peu castré quand même à ce niveau-là. C'est-à-dire, au niveau, les femmes ici portent les culottes, c'est plus facile de jouer le macho en Europe. Mais ceci dit, moi, ça va très bien dans ma vie.
Mais tu sais, tu veux jouer le macho?
Ben non, mais c'est le fun des fois de sentir, mais c'est par nos gènes. Là. Mm-hmm. C'est pas nécessairement seulement par éducation. Dans nos gènes, il y a un côté conquérant.
Moi, j'entends l'inverse. J'ai beaucoup d'amis en France, des amis filles, des amis gars, puis des Québécois aussi qui vont en France, puis qui disent exactement l'inverse. En fait, elles disent, En France, on se fait harceler, puis les Françaises le disent aussi. Puis quand on vient au Québec, en fait, on peut marcher dans la rue sans passer des heures le matin en se disant « Est-ce que j'ai l'énergie pour porter une jupe? » Parce que je sais que là, je vais me faire...
Ben, c'est le cas de ma conjointe, qui est européenne. Par contre, elle s'est plainte que les gars, ils ne la crousent pas. C'est les Québécois ne crousent pas.
Elle a un conjoint, apparemment. Donc,
oui, d'ailleurs, moi, je l'ai séduit avec mes mots, heureusement, mais c'est comme ça qu'on a embarqué.
Ouais. Merci à tous les trois. C'est pas simple.
Merci
comme
à ceux qui nous ont appelés aussi.
Oui, merci à tous les auditeurs. Merci à Francis Dupuis-Déry. En tout cas, fort intéressant cet essai, La crise de la masculinité. Jean-François, Stéphane, merci d'avoir été là.
Merci, Isabelle.